un vieux réverbère. Et je suis ancien, mais je suis aussi prédicateur de l'Église. Donc, je m'adresse à vous, chrétiens de l'Église évangélique de Vendeuvre, qui marchaient par la puissance de l'Esprit, mais qui avaient aussi à subir quotidiennement, je pense comme moi, des combats spirituels que vous impose Satan, l'ennemi de nos âmes et de nos vies. Et en même temps, je vous dis, soyez bénis, toutes et chacun. Alors, je suppose que comme moi, il vous arrive d'entendre des réflexions émanant de chrétiens. Et ces réflexions n'ont aucun fondement biblique, mais ont un fondement de vérité. Elles paraissent tellement vraies, tellement sages, qu'on n'ose pas les réfuter. Alors récemment, j'ai entendu deux de ces réflexions que je vais vous partager, afin que nous les méditions ensemble. Dernièrement, alors que je parlais du combat spirituel, un frère qui n'est pas forcément de l'Église de Vendeuvre, hein, c'est des gens que je rencontre, m'a dit avec assurance, « Tu sais, Daniel, il ne faut pas voir Satan partout. » Un autre jour, comme je parlais de tout ce que le Saint-Esprit accomplissait dans ma vie, quotidienne, un frère m'a dit, « Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait tout, nous sommes aussi actrices, acteurs de nos vies. » Alors, c'est vrai qu'il faut toujours prendre ces réflexions comme des choses intéressantes et faire comme les chrétiens de Béret, eh bien, voir si vraiment ces réflexions sont juste vraies et si la Bible les confirme. Alors, ces deux réflexions intéressantes ont bien sûr un socle de vérité, mais sont-elles la vérité? Est-ce qu'elles sont la vérité? C'est ce que je vous propose de vérifier ce matin. Alors, la première, il ne faut pas voir Satan partout dans nos vies. Et c'est vrai qu'on est responsable aussi de nos faiblesses. La question à laquelle il faut répondre, la problématique, c'est Satan est-il partout et responsable de nos propres malheurs? Alors je voudrais commencer aussi par dire que, frères et sœurs, nous sommes toutes et tous conscients, je l'espère, conscients que si nous vivons dans un monde matériel dirigé par nos sens, ce que nous voyons, nous goûtons, nous touchons, eh bien, il existe bel et bien, en parallèle, un autre monde qu'on ne voit pas et qui influence puissamment le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde spirituel invisible. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui, bien. Ce monde spirituel est dirigé par Dieu, qui est esprit et vérité. Et ce monde n'est accessible à l'homme que par l'esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Dieu le Père est invisible et pourtant créateur de toutes choses. Par Dieu le Fils, par sa parole créatrice, il a tout créé, tout. Et ça, c'est des choses importantes. Colossiens 1, versets 15 et 16, le Fils est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles comme les invisibles. Donc il y a bien un monde visible et un monde invisible. Vous savez, ce matin, on ne voit pas, mais autour de nous, il y a des entités invisibles qui existent. Des anges, des démons, de tout, enfin, franchement, dans le monde invisible. Le monde matériel visible et l'univers spirituel invisible se côtoient. Et parfois s'entrechoquent. Ces deux mondes sont faits pour se rencontrer, le visible et l'invisible. Par exemple, Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme en entrant dans le monde visible. C'est l'incarnation. Et l'homme peut à présent entrer dans le royaume des cieux invisible par un acte de foi. Jean 3, 36, qui place sa confiance dans le Fils, possède la vie éternelle qui est invisible. Vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est la grâce. Le monde invisible, dirigé par Dieu, a connu une puissante révolution qui ne nous a pas été révélée, ou alors partiellement révélée. Le mal, le péché, a fait irruption, s'est introduit dans la perfection, la sainteté du royaume de Dieu. Chacun de nous, je l'espère, a entendu parler de Satan, cet ange, ce chérubin protecteur, qui est tombé dans l'orgueil et qui, en voulant prendre la place de Dieu, a fait entrer le mal, le péché dans le monde. Alors, la Bible nomme plusieurs fois Satan, dont l'origine semble remonter au temps vraiment très ancien, et on croit le reconnaître dans deux textes bibliques, Ézéchiel 28, versets 12 à 17, et Ésaïe 14, versets 12 à 14. Alors, faute de temps, moi, je ne lirai ce matin que le texte d'Ézéchiel, qui présente Satan, l'ennemi de Dieu, sous le trait du roi de Tyr. Vous savez, Tyr, c'était un piton rocheux qui était en bordure de mer, et c'était une ville phénicienne. Et là, il s'adresse au roi de Tyr, Ézéchiel 28, versets 12 à 17. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses, de toute espèce. Tes tambourins, tes fifres, c'est-à-dire tes flûtes, étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin, un autre chérubin, ayant rôle de protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal soit trouvé chez toi. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli. Tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai, dit Dieu, précipité à terre, et je te donne en spectacle aux autres rois. » Voilà, c'est un passage qui nous parle de Satan. Alors ce chérubin protecteur, décrit par Ézéchiel, cet astre brillant, décrit par Ésaïe, ce Lucifer, cet esprit maléfique, vous l'avez compris, ce n'est pas le Dieu du mal. Parce que souvent, nous, on considère qu'il y a un Dieu du bien, c'est l'Éternel, et puis un Dieu du mal, c'est Satan. Ce n'est pas du tout ça. Il y a l'Éternel qui est le Dieu, le seul Dieu, et puis Satan, c'est un esprit déchu, c'est une créature. C'est une créature de Dieu, tout simplement. Contrairement à Dieu, et en tant que créature, il ne possède pas les atouts divins que Dieu seul possède. Par exemple, l'omniscience. Vous savez, dans le psaume 139, on lit l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout, connaît tout, il lit dans nos cœurs, dans nos pensées. Pas Satan. Il n'est que créature, il n'est pas Dieu. L'omnipotence, tout est possible à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Satan n'a pas toute la puissance de Dieu, sinon il l'aurait vaincu. Certes, Satan est plus puissant que l'homme, mais il n'a pas la force de Dieu. L'omniprésence. Dieu est présent partout dans l'univers. Salomon l'exprime à sa manière, en Roi 8, 27. Même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors ce n'est pas le cas de Satan qui, lui, ne remplit pas l'univers, mais doit se déplacer comme une créature. Nous avons donc répondu à une partie de la question, non, il ne faut pas voir Satan partout, car il n'est pas omniprésent. Mais malgré tout, pourtant cet être maléfique qu'on appelle aussi le malin a plus d'un tour dans son sac. S'il n'est pas omniprésent, il va combler ce handicap par deux choses pour faire croire qu'il est omniprésent. Alors premièrement, une hyperactivité, un activisme débordant. Job 1, verset 6. Un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, et Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « Mais d'où viens-tu donc ?» Satan répondit, « Oh, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Vous voyez, il parcourt la terre et il sillonne la terre sans arrêt. Deuxièmement, une organisation bien structurée. Vous savez que Satan, selon la Bible, ne s'est pas révolté seul. Il a entraîné avec lui le tiers des anges. L'apôtre Jean, dans ses visions apocalyptiques, a reçu des révélations qu'il nous a données. Apocalypse 12, versets 3 et 4. Et voici un autre signe paru dans le ciel. C'était un dragon énorme, couleur de feu. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ce sont des myriades d'anges qui ont accompagné Satan dans sa folle chevauchée contre Dieu. Et puis, troisièmement, il a des serviteurs diversifiés et très actifs. Et là, on va lire un passage de Marc 5, verset 9. Alors qu'il était en Galilée, un homme vint à la rencontre de Jésus. Il ne portait plus de vêtements et demeurait au milieu des tombeaux. On l'avait lié de chaînes, mais il cassait tous ses liens. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, car une multitude de démons était entrée en lui. Une légion, ça oscille entre 6 000 et 8 500 hommes. Vous voyez ? Satan et ses serviteurs n'ont aucune considération ni respect pour l'être humain, pas plus que pour Dieu. Alors ne leur offrons aucune porte d'entrée, surtout dans tout ce qui concerne les sciences occultes. La magie noire, par exemple, car notre adversaire le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. La meilleure façon de lui échapper est de lui résister avec une foi ferme. Cette fermeté dans la foi le fera fuir, dit la Bible, loin de nous. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6 et verset 12, nous rappelle que nous, chrétiens, sommes engagés dans une guerre spirituelle contre les forces du mal, comparable à la guerre, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre de haute intensité et sans merci. Nous sommes confrontés à des troupes de démons invisibles, mais puissantes et bien organisées. Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre des êtres faits de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors, comme vous le voyez, frères et sœurs, nous sommes dans un combat permanent et quotidien contre les forces du mal bien structurées. Le 15 novembre, donc c'est il n'y a pas longtemps, Wardia et moi sommes allés à une réunion de famille où les chrétiens se réunissent, c'est mission famille chrétienne, pour la famille qui n'est pas convertie. Le matin, nous déjeunons ensemble et je fais une formation biblique de 2 heures, et l'après-midi, Wardia nous invite à un temps de prière. Eh bien, frères et sœurs, l'ennemi a mené un combat spirituel contre nous en créant vraiment des divisions, des colères. Le combat a été si épuisant que j'ai dû aller me reposer l'après-midi, j'en pouvais plus. J'étais exténué. Et j'ai dû laisser Wardia terminer le seul par un temps de prière apaisant et libérateur. Frères et sœurs, si nous ne pouvons éviter le combat spirituel que nous livre l'ennemi, eh bien, nous pouvons au moins nous y préparer et nous défendre. L'apôtre Paul nous donne de précieux conseils, lui qui a été exposé à de rudes combats. Le premier conseil, surtout ne pas combattre par nos propres forces. Car nos forces sont trop insuffisantes face à celles de l'ennemi. Éphésiens 6, 10. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Nous devons le confronter avec la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, avec le soutien dans la prière de l'Église, qui tire sa force aussi du Saint-Esprit, et par toutes les armes spirituelles de Dieu qui constituent l'armure du chrétien et que vous connaissez. Éphésiens 6, versets 13 à 17, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. N'attendons pas surtout d'être attaqués pour revêtir l'armure. Soyons prêts et revêtus. Il y a un théologien célèbre, il est peut-être sur la, dans les livres sur la table, John MacArthur, qui écrit ceci. Ce qu'il faut aux chrétiens pour affronter les démons, ce n'est pas la bonne technique pour les chasser, mais un attachement aux moyens spirituels que lui offre la grâce de Dieu pour purifier son âme, afin qu'il ne reste aucune place impure que les démons puissent occuper, ou de laquelle ils puissent tirer avantage. Frères et sœurs, il est plus qu'important dans le combat spirituel d'avoir réglé avec Dieu nos conflits intérieurs, d'avoir déposé au pied de la croix nos fardeaux pour éviter que l'ennemi s'en serve contre nous. Ça, c'est important. Enfin, j'aimerais rappeler qu'il y a une puissance exceptionnelle sur laquelle on peut et on doit s'appuyer dans notre guerre spirituelle contre Satan et sa clique démoniaque, la victoire de Jésus sur le monde des ténèbres à la croix. Colossiens 2, versets 13 et 15. Oui, c'est vrai, vous étiez morts par vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant à Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Frères et sœurs, sommes-nous unis à Christ? Formons-nous une seule plante avec lui, un seul corps avec lui? Si nous le sommes, nous sommes plus que vainqueurs en lui, car il a démasqué et puis désarmé les autorités et dominations de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers, il les a entraînés derrière son char triomphal à la croix. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons à notre première conclusion. Non, Satan n'est pas omniprésent, mais il est présent partout. Il est le principal responsable de nos malheurs, mais nous sommes nous-mêmes responsables de la place que nous lui laissons dans nos vies et même dans l'Église. Donc voir Satan partout est sans doute exagéré, mais ne le voir nulle part est très dangereux. Veillons et restons fermes, et je vais terminer par la première partie par ce témoignage et cette petite histoire de John MacArthur, qui est vrai. Il y a plus de 50 ans, trois hommes ont fait une campagne d'évangélisation en Irlande et leur travail a produit beaucoup de fruits. Des années plus tard, un pasteur irlandais qui s'était converti durant cette campagne s'est enquis de ce qu'étaient devenus ces trois hommes. L'un d'eux marchait encore avec le Seigneur. Pour ce qui est des deux autres, un avait apostasié, c'est-à-dire il avait renié sa foi, et l'autre était mort alcoolique. Et il conclut, certains croyants ont tout surmonté dans l'œuvre du Seigneur, mais n'ont pu tenir ferme jusqu'au bout. Et nous, je nous invite à tenir ferme jusqu'au bout. La seconde problématique qui nous est proposée ce matin, et qui n'est pas moins intéressante que la première, est « Le Saint-Esprit fait-il tout dans nos existences, ou sommes-nous entièrement actrices et acteurs ?» de nos vies chrétiennes. Frères et sœurs, dans notre monde visible et matériel, c'est, vous le savez tous et tous, la chair, l'humain, et non l'esprit, le spirituel qui dirige toutes choses. Par exemple, nos pensées humaines nous inclinent à croire que ce sont nos propres forces intérieures qui nous font avancer dans la vie, qu'elles sont le moteur de nos existences. Même la religion catholique dont je suis issu nous dit ces choses. Elle nous enseigne que l'on est sauvé par nos bonnes actions, nos B.A. Moi, j'ai appris ça quand j'étais au catéchisme. Fais des bonnes actions, Daniel, et tu verras, tu vas plaire à Dieu. Ceci nous valorise, flatte notre ego et nous entraîne vers l'orgueil. Si nous traînons donc ce boulet d'orgueil, de fierté dans notre vie chrétienne, eh bien nous risquons d'être aspirés par ces pensées charnelles et entraîné dans une spirale qui fait de nous des travailleurs chrétiens au service de Dieu. Voilà, Dieu c'est le chef, c'est le boss, et puis nous, ben, on travaille pour lui, quoi. Hein? La tentation est alors forte pour nous de faire à la place de Dieu, on bosse pour un patron. Mais au fait, qui est exactement le Saint-Esprit? Ben, j'en dirai pas grand-chose ce matin, car je vais aller à l'essentiel, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Le Saint-Esprit est à la fois Dieu est la troisième personne de la Trinité. Alors vous savez que le terme Trinité ne figure pas dans la Bible. Si vous la cherchez, vous ne la trouverez pas. Mais dès le IIe siècle, c'est d'abord Théophile d'Antioche qui invente le nom triade, puis Tertullien qui le traduit en latin par Trinité. La Trinité, qui est reconnue par l'Église, par le monde chrétien, ne fait pas du christianisme une religion polythéiste, c'est-à-dire plusieurs dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. La Trinité, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais c'est un seul Dieu, mais trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tri-unité. Ils sont tous unis, mais il n'y en a qu'un. Pour conclure sur la Trinité, j'aimerais vous lire le beau texte d'Alain Missus, l'auteur de « Pour une fois réfléchi ». Certainement que vous avez déjà lu ce passage. Souvent, quand on explique la Trinité, on essaye de la simplifier pour la comprendre. Mais la première chose qu'il nous faut comprendre, c'est qu'affirmer la Trinité, c'est reconnaître un mystère que l'homme, que l'être humain, ne peut pas maîtriser intellectuellement. En fait, c'est une illusion de croire que nous pourrions véritablement comprendre tous les aspects de ce concept. Par contre, nous pouvons comprendre pourquoi nous ne pouvons pas maîtriser le sens de la Trinité. Pour la simple et bonne raison que notre cerveau a été conçu pour comprendre ce qui a été créé. Or, parler de la Trinité, c'est s'approcher justement de celui qui n'a jamais été créé, c'est-à-dire Dieu. Pour répondre à la seconde problématique de ce matin, je vous propose donc de voir le rôle de Dieu et le rôle de l'homme, par exemple dans la conversion et dans la sanctification. Alors, on a bien trois personnes distinctes avec des rôles spécifiques. Dieu le Père, il est l'autorité suprême qui appelle l'homme. C'est lui qui appelle l'homme. 1 Corinthiens 1,9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu le Père. Dieu le Fils, qui incarne la grâce. C'est lui qui justifie, c'est lui qui nous rend juste. Actes 4,12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il sanctifie, c'est lui qui nous rend saints, 1 Pierre 1,2. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus. Voilà le rôle de Dieu dans la conversion. En réalité, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes qui agissent dans l'unité. Unité d'action, les trois agissent ensemble. Par exemple, à la croix, il serait inutile de croire qu'il n'y avait que Jésus. Il y avait Jésus, le Père et l'Esprit étaient là. Unité de décision, les trois sont toujours d'accord ensemble. Il n'y a pas de divergence entre eux. Et unité de présence, Jésus l'exprime très concrètement en disant à Thomas, Jean 14,9, « Mais Thomas, celui qui m'a vu, a vu le Père. » C'est-à-dire, quand on voit Jésus, on voit aussi le Père. Cette unité de présence est magnifiquement imagée dans la parabole de la vigne de Jean 15. Où Dieu le Père est le vigneron, Dieu le Fils le cep de la vigne, et Dieu le Saint-Esprit celui qui donne de beaux fruits. On pourrait croire que le rôle de l'être humain, c'est de chercher à rencontrer Dieu. Voilà, dans la conversion, c'est l'être humain, il cherche Dieu. Mais ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Écoutez plutôt ce que dit la Bible. Psaume 16, verset 8. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Mais tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà, frères et sœurs, vous l'avez compris, vous l'entendez, l'être humain est totalement incapable de chercher et de trouver Dieu par lui-même. Il a besoin que Dieu fasse le premier pas à travers trois actions divines. Tout d'abord, Dieu le Père appelle l'homme. Il l'appelle. Matthieu 22, verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, Dieu appelle beaucoup de gens, mais il y a peu d'élus. Dieu appelle par les témoignages, les rencontres, peut-être à travers le culte de ce matin. Et l'homme peut répondre ou rester sourd à l'appel de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, lui, il cherche l'homme dans sa conscience et dans son cœur. Il cherche à le convaincre que Dieu existe. À le convaincre qu'il est un pécheur perdu et que son avenir est bien sombre. Jean 16, 8. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Là encore, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous, des fois, on dit, ben, j'ai réussi à convaincre quelqu'un, j'ai réussi à... C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Mais l'homme accepte-t-il de se laisser convaincre? Ça, c'est de la responsabilité humaine. Dieu le Fils, lui, son rôle, c'est qu'il frappe à la porte du cœur de l'homme. Pour lui rappeler par sa douce voix qu'il est mort à la croix pour lui afin de le libérer de son péché. Apocalypse 3, 20. Voici, dit Jésus, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Là encore, le rôle de l'homme est d'entendre ou étouffer la voix de Jésus, d'ouvrir ou de fermer la porte, accepter ou refuser de croire en Jésus en le recevant, et le recevoir dans son cœur. Vous savez, frères et sœurs, pendant 34 ans de ma vie, Dieu m'a cherché, m'a appelé, il a frappé plusieurs fois à la porte de mon cœur, mais je suis resté sourd à son appel. J'ai pas répondu. Peut-être que ce matin, il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas encore répondu à l'appel de Dieu et qui se posent la question de savoir s'il est opportun de le faire. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore répondu à l'appel de Jésus et qui se posent la question? Soyez heureux, tout le monde est converti. En 1986, alors que j'étais au plus profond du trou, ben j'ai enfin dit oui à son appel. Pourquoi à ce moment-là, j'en sais rien. Je lui ai ouvert mon cœur et je ne l'ai jamais regretté. Quand Jésus entre dans un cœur, il y a des cris de joie dans le ciel, les anges exultent, Dieu se réjouit. C'est le bonheur. Et Jésus n'entre pas dans un cœur les mains vides. Il vient avec le Saint-Esprit, qui en faisant son temple en nous, témoigne que nous appartenons totalement à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19, « Votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. » Vous ne vous appartenez donc plus à vous-même. Ça y est, on ne s'appartient plus. On appartient au Saint-Esprit, on appartient à Jésus. Le rôle de Dieu, c'est donc d'offrir à l'être humain un plan de salut en Jésus-Christ, de le mettre devant lui, de l'inviter à choisir, et surtout, de faire le bon choix. Deutéronome 30, 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Allez, choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. » Vous voyez, le petit homme derrière, il est devant la main de Dieu qui lui dit « Choisis la vie ou la mort, choisis la bénédiction ou la malédiction. » Lui dit « Difficile à choisir. Hein. » Le rôle de l'être humain, c'est de prendre la juste décision qui offre la vie et la bénédiction. Ce matin, peut-être que quelqu'un veut dire vraiment « Oui à Jésus ». Il n'est pas trop tard, on peut le faire maintenant. La présence du Saint-Esprit en nous ne marque pas seulement notre appartenance exclusive à Dieu. Elle marque aussi la volonté de Dieu de transformer nos vies et nous rendre saints. 1 Pierre 1, 19, « Vous serez saints, dit Dieu, car moi je suis saint. » Voilà, Dieu est saint et il veut qu'on soit saint comme lui. Dans l'euphorie d'avoir ouvert son cœur à Jésus, dans sa joie d'avoir donné son cœur et d'avoir en lui le Saint-Esprit, eh bien le tout nouveau chrétien peut être tenté de vouloir lui-même transformer sa vie pour plaire à Dieu. Je vais tout faire pour m'améliorer, pour devenir meilleur. Mais ça, c'est une très mauvaise idée. Il y a quelques années, passé à la télé, vous savez, une publicité délirante, les plus anciens l'ont certainement connue, on voyait une famille grimacer en mangeant un plat sans épices, et puis un cuisinier qui apparaissait, et en disant « À quoi ça sert que Ducrot, il se décarcasse ?» Vous vous rappelez de ça? Bon, à quoi ça sert d'avoir le Saint-Esprit si on ne s'en sert pas? En gros, c'est ça. La sainteté, la transformation intérieure, changer, devenir meilleur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'homme ne peut rien faire par lui-même. Il ne peut pas s'améliorer. Mais il ne peut pas se rendre meilleur. C'est impossible. Jérémie 13, 23 le dit clairement. Et ça, on ne peut pas être plus clair. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Essayez. Et un léopard enlever ses taches. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal. C'est impossible. Impossible. Frères et sœurs, comment nous qui sommes pécheurs, alors certes pardonnés, pouvons-nous transformer en bien notre vie? À quoi sert-il que nous ayons le Saint-Esprit en nous si ce n'est pas pour lui faire confiance et lui laisser faire les choses? Frères et sœurs, l'Esprit, si on le laisse faire, si on l'invite à agir, est à l'œuvre dans tous les domaines de notre vie. Tous. L'apôtre Paul, à l'instar de Dieu, montre la voie à suivre. Il dit dans Galates 5, 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et frères et sœurs, je vous invite à méditer cette phrase. Alors, je vais la dire doucement. « La sainteté ne vient que du Saint-Esprit. » La vie sainte ne résulte pas de ce que nous faisons pour Dieu, mais de ce que lui fait en nous par son propre esprit. Ça vous parle? Moi, ça m'a parlé. C'est le Saint-Esprit qui fait toute chose. Jésus le dit dans la parabole de la vigne. Jean 15, 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Impossible. Et Paul le confirme dans son épître aux Galates. Galates 2, 20, il dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Par le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est se laisser diriger par les paroles et les pensées inspirées de la Bible, se les approprier. Marcher selon l'Esprit, c'est l'inviter dans tous les domaines de notre vie par la prière. Marcher selon l'Esprit, c'est avoir une vie de consécration et d'intimité avec Dieu. Avez-vous cette vie de consécration et d'intimité avec Dieu? Alors, c'est vrai, j'entends déjà le cri silencieux de celles et ceux qui, ce matin, se disent ah, « C'est pas sérieux, Daniel, enfin, quoi hein? ?» Et nous, dans tout cela, quel est notre rôle? On n'est pas des instruments, on n'est pas des robots. Frères, sœurs, si les œuvres, nos propres actions, ne jouent absolument aucun rôle dans l'obtention du salut, hein, on est bien d'accord avec ça, lorsqu'on est sauvé, qu'on a accepté Jésus-Christ dans son cœur, eh bien, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, nous allons d'abord produire du fruit, qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Jésus a dit, Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, on produit des fruits par le Saint-Esprit. Et si nous laissons agir en nous le Saint-Esprit, c'est lui qui produit le fruit que nous portons et qui glorifie Dieu. C'est lui, c'est pas moi. Si nous n'empêchons pas le Saint-Esprit d'agir en agissant à sa place, eh bien, il va nous conduire à faire des œuvres qu'il a choisies pour nous et qu'il a préparées d'avance pour nos vies. Mais je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer. Si Jésus, par exemple, il est la parole de Dieu, si le Saint-Esprit a inspiré cette parole, à ce que je sache, c'est de ma propre responsabilité de me lever une demi-heure plus tôt chaque matin pour lire la Bible. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire ça. Si le Saint-Esprit m'aide et m'inspire dans la préparation d'un message, d'une prédication comme celle-là ce matin, c'est de ma responsabilité de prendre du temps dans la prière et puis aussi de prendre du temps pour faire des dessins et l'écrire. C'est moi qui participe. Si le Saint-Esprit inspire l'Église pour qu'il y ait des réunions de prière et des études bibliques, c'est de ma responsabilité d'y aller ou pas. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Je vais conclure par ce texte d'Éphésiens 2 qui à lui seul répond à notre problématique. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Dieu qui a tout fait, tout accompli. Il nous ouvre un chemin. Il a préparé pour chacun de nous des œuvres afin que nous les pratiquions dans sa présence et par sa force. Je ne sais pas si vous avez tous suivi tout ce que j'ai dit. Mais merci pour votre écoute attentive et n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte si vous avez des questions à me poser.